Sans famille, deuxième partie, chapitre 13, la famille Driscoll. Leclerc, qui devait me conduire chez mes parents, était un vieux petit bonhomme ratatiné, parcheminé, ridé, vêtu d'un habit noir râpé et lustré, cravaté de blanc. Lorsque nous fûmes dehors, il se frotta les mains frénétiquement en faisant craquer les articulations de ses doigts et de ses poignets, secoua ses jambes comme s'il voulait envoyer au loin ses bottes éculées, et levant le nez en l'air, il aspira fortement le brouillard à plusieurs reprises avec la béatitude d'un homme qui a été enfermé. « Il trouve que ça sent bon », me dit Mattia en italien. Le vieux bonhomme nous regarda et sans nous parler, il nous fit comme s'il s'était adressé à des chiens, ce qu'il voulait dire que nous devions marcher sur ses talons et ne pas le perdre. Nous voilà dans une rue fangeuse, au milieu du brouillard. Une boutique est brillamment illuminée et le gaz reflété par des glaces, par des dorures et par des bouteilles taillées à facettes se répand dans la rue où il perce le brouillard jusqu'au ruisseau. C'est une taverne, ou mieux ce que les Anglais nomment « Engine Palace ». Un palais dans lequel on vend de l'eau-de-vie de Genièvre et aussi des eaux-de-vie de toutes sortes, qui, les unes comme les autres, ont pour même origine l'alcool de grain ou de betterave. Fait notre guide. Où allons-nous? Je commence à être inquiet, et de temps en temps, Mattia me regarde. Cependant, il ne m'interroge pas. Notre guide ne tarde pas à s'arrêter. Assurément, il est perdu. Mais à ce moment, vient à nous un homme vêtu d'une longue redingote bleue et coiffé d'un chapeau garni de cuir verni. Autour de son poignet est passé un galon noir et blanc, un étui suspendu à sa ceinture. C'est un homme de police, un policeman. Une conversation s'engage et bientôt nous nous remettons en route, précédés du policeman. Nous traversons des ruelles, des cours, des rues tortueuses. Il me semble que ça et là, des maisons sont effondrées. Enfin, nous nous arrêtons dans une cour dont le milieu est occupé par une petite mare. « Red Lion Court », dit le policeman. Ces mots que j'ai entendus prononcer plusieurs fois déjà signifient « cour du lion rouge », m'a dit Mattia. Pourquoi nous arrêtons-nous? Il est impossible que nous soyons à Bethnal Green. Est-ce que c'est dans cette cour que demeurent mes parents? Mais alors... Je n'ai pas le temps d'examiner ces questions qui passent devant mon esprit inquiet. Le policeman a frappé à la porte une sorte de hangar en planche et notre guide le remercie. Nous sommes donc arrivés. Mattia, qui ne m'a pas lâché la main, me la serre et je serre la sienne. Nous nous sommes compris. L'angoisse qui étreint mon cœur étreint le sien aussi. J'étais tellement troublée que je ne sais trop comment la porte à laquelle le policeman avait frappé nous fut ouverte. Mais, à partir du moment où nous fûmes entrés dans une vaste pièce qu'éclairaient une lampe et un feu de charbon de terre brûlant dans une grille, mes souvenirs me reviennent. Devant ce feu, dans un fauteuil en paille, qui avait la forme d'une niche de sein, se tenait, immobile comme une statue, un vieillard à barbe blanche, la tête couverte d'un bonnet noir. En face l'un de l'autre, mais séparés par une table, étaient assis un homme et une femme. L'homme avait 40 ans environ. Il était vêtu d'un costume de velours gris. Sa physionomie était intelligente, mais dure. La femme, plus jeune de 5 ou 6 ans, avait des cheveux blonds qui pendaient sur un châle à carreaux blancs et noirs croisés autour de sa poitrine. Ses yeux n'avaient pas de regard, et l'indifférence ou l'apathie était empreinte sur son visage, qui avait dû être beau, comme dans ses gestes indolents. Dans la pièce se trouvaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, tous blonds, d'un blond de lin comme leur mère. L'aîné des garçons paraissait être âgé de 11 ou 12 ans. La plus jeune des petites filles avait 3 ans à peine, elle marchait en se traînant à terre. Tous les yeux s'étaient tournés vers Mattia et vers moi, même ceux du vieillard immobile. Seule la petite fille prêtait attention à Capi. « Lequel de vous deux est Rémi ?» demanda en français l'homme au costume de velours gris. Je m'avançai d'un pas. « Moi ?» dis-je. « Alors, embrasse ton père, mon garçon. » Quand j'avais pensé à ce moment, je m'étais imaginé que j'éprouverais un élan qui me pousserait dans les bras de mon père. Je ne trouvais pas cet élan en moi. Cependant, je m'avançai et j'embrassai mon père. « Maintenant, me dit-il, voilà ton grand-père, ta mère, tes frères et tes sœurs. » J'allai à ma mère tout d'abord et la pris dans mes bras. Elle me laissa l'embrasser, mais elle-même, elle ne m'embrassa point. Elle me dit seulement deux ou trois paroles que je ne compris pas. « Donne une poignée de main à ton grand-père, me dit mon père, et vas-y doucement, il est paralysé. » Je donnai aussi la main à mes deux frères et à ma sœur aînée. Je voulus prendre la petite dans mes bras, mais comme elle était occupée à flatter Capi, elle me repoussa. « Et celui-là ?» demanda mon père en désignant Mathia. « Quel est-il ?» J'expliquai quel lien m'attachait à Mathia, et je le fis en m'efforçant de mettre dans mes paroles un peu de l'amitié que j'éprouvais, et aussi en tâchant d'expliquer la reconnaissance que je lui devais. « Mais tu dois être curieux de savoir comment nous ne t'avons pas cherché pendant 3 ans et comment tout d'un coup nous avons eu l'idée d'aller trouver Barbarin. »« Ah oui, très curieux, je vous assure, bien curieux. »« Alors, viens là auprès du feu, je vais te conter cela. » En entrant, j'avais déposé ma harpe contre la muraille. Je débouclai mon sac et pris la place qui m'était indiquée. « Tu es notre fils aîné. » me dit mon père. « Et tu es né 1 an après mon mariage avec ta mère. Quand j'épousais ta mère, il y avait une jeune fille qui croyait que je la prendrais pour femme et à qui ce mariage inspira une haine féroce contre celle qu'elle considérait comme sa rivale. Ce fut pour se venger que, le jour juste où tu atteignais tes 6 mois, elle te vola et t'emporta en France, à Paris, où elle t'abandonna dans la rue. Nous fîmes toutes les recherches possibles, mais cependant sans aller jusqu'à Paris, car nous ne pouvions pas supposer qu'on t'avait porté si loin. Nous ne te retrouvons point, et nous te croyons mort et perdu à jamais. Lorsqu'il y a 3 mois, cette femme, atteinte d'une maladie mortelle, révéla avant de nourrir la vérité. Je partis aussitôt pour la France, et j'allai chez le commissaire de police du quartier dans lequel tu avais été abandonné. Là, on m'a appris que tu avais été adopté par un maçon de la Creuse, celui-là même qui t'avait trouvé, et aussitôt je me rendis à Chavanon. Barbara me dit qu'il t'avait loué à Vitalis, un musicien ambulant, et que tu parcourais la France avec celui-ci. Comme je ne pouvais pas rester en France et me mettre à la poursuite de Vitalis, je chargeais Barbara de ce soin et lui donnais de l'argent pour venir à Paris. En même temps, je lui recommandais d'avertir les gens de loi qui s'occupent de mes affaires, Mr. Grace et Mr. Gully, quand ils t'auraient retrouvé. Si je ne lui donnais point mon adresse ici, c'est que nous n'habitons Londres que dans l'hiver. Pendant la belle saison, nous parcourons l'Angleterre et l'Écosse pour notre commerce de marchands ambulants avec nos voitures et notre famille. Voilà, mon garçon, comment tu as été retrouvé. Et comment, après 13 ans, tu reprends ici ta place dans la famille? Je comprends que tu sois un peu effarouché, car tu ne nous connais point et tu n'entends pas ce que nous disons, de même que tu ne peux pas te faire entendre, mais j'espère que tu t'habitueras vite. Oui, sans doute je m'habituerai vite. N'était-ce pas naturel puisque j'étais dans ma famille et que ceux avec qui j'allais vivre étaient mes pères et mères, mes frères et sœurs? Les beaux langes m'avaient dit vrai. Pour Mère Barbarin, pour Lise, pour le père Aquin, pour ceux qui m'avaient secouru, c'était un malheur. Je ne pourrais pas faire pour eux ce que j'avais rêvé, car des marchands ambulants, alors surtout qu'ils demeurent dans un hangar, ne doivent pas être bien riches. Mais pour moi, qu'importait après tout? J'avais une famille et c'était un rêve d'enfant de s'imaginer que la fortune serait ma mère. Tendresse vaut mieux que richesse. Ce n'était point d'argent que j'avais besoin, c'était d'affection. Pendant que j'écoutais le récit de mon père, N'ayant des yeux et des oreilles que pour lui, on avait dressé le couvert sur la table, des assiettes à fleurs bleues et dans un plat en métal un gros morceau de bœuf cuit au four avec des pommes de terre autour. « Avez-vous faim, les garçons ?» nous demanda mon père en s'adressant à Mathia et à moi. Pour toute réponse, Mathia montra ses dents blanches. « Eh bien, mettons-nous à table, » dit mon père. Mais avant de s'asseoir, il poussa le fauteuil de mon grand-père jusqu'à la table. Puis prenant place lui-même le dos au feu, il commença à couper le roast beef et il nous en servit à chacun une belle tranche accompagnée de pommes de terre. Quoique je n'eusse pas été élevée dans des principes de civilité, ou plutôt pour dire vrai, bien que je n'eusse pas été élevée du tout, je remarquais que mes frères et ma sœur aînée mangeaient le plus souvent avec leurs doigts, qu'ils trempaient dans la sauce et qu'ils léchaient, sans que mon père ni ma mère parussent s'en apercevoir. Quant à mon grand-père, il n'avait d'attention que pour son assiette, et la seule main dont il put se servir allait continuellement de cette assiette à sa bouche. Quand il laissait échapper un morceau de ses doigts tremblants, mes frères se moquaient de lui. Le souper achevé, je crus que nous allions passer la soirée devant le feu. Mais mon père me dit qu'il attendait des amis et que nous devions nous coucher. Puis prenant une chandelle, il nous conduisit dans une remise qui tenait à la pièce où nous avions mangé. Là se trouvaient deux de ces grandes voitures qui servent ordinairement aux marchands ambulants. Il ouvrit la porte de l'une et nous vîmes qu'il s'y trouvait deux lits superposés. « Voilà vos lits, » dit-il. « Dormez bien. » Telle fut ma réception dans ma famille, la famille Driscoll.